aller souvent comme ça, mais après tu arrêtes.
Donc ce week-end, on développe la thématique colonialisme en chaîne. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour et on a le plaisir d'accueillir la réalisatrice Alexandra Dolce qui vient en fait accompagner son film Derrière les fronts, qui sera présenté ce soir à 21h. En deux mots, Derrière les fronts suit l'écrivaine et la psychiatre palestinienne Sama Jabre, qui témoigne des conséquences de l'occupation d'un point de vue psychologique, en fait, de l'occupation sur les esprits. Voilà, juste pour commencer, j'aurais aimé que vous nous racontiez un peu votre parcours cinématographique et votre engagement politique aussi.
Oh.
Okay. Ça commence pas.
Okay. Déjà, bonjour. Alors, dites-moi, ça va comme ça? Vous m'entendez bien? Ouais. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Non, pas très bien.
On peut mettre plus fort, du coup, là, peut-être sur sa tranche. Ouais.
Et puis, merci pour cette invitation à présenter le film ce soir, et puis ce café ciné pour qu'on discute un peu plus en détail autour des films. Alors, le parcours. Moi, j'ai fait un master d'écriture de scénario de fiction à la Sorbonne. Et puis, ensuite, j'ai enchaîné sur un Master 2 de création et réalisation audiovisuelle à Paris 8, à Saint-Denis. Donc, qui était plus axé sur la pratique et plus axé sur le documentaire. Et c'est dans le cadre de ce Master 2 que j'ai réalisé mon premier long-métrage documentaire, qui s'appelle Moudjahidat, sur des engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie, au sein du FLN à Hélène. Donc c'est des témoignages d'anciennes combattantes qui habitent en Algérie, qui ont milité en Algérie. Donc là on est en quelle année, ça fait plus de 10 ans quoi, on est en 2006, 2005, 2006, 2007. Je pense que vous l'avez un peu compris, vu la thématique de ce premier long métrage. Mon deuxième long métrage est Derrière les fronts. Donc il y a un lien sur l'anticolonialisme. Après, moi j'ai toujours eu... En fait, j'ai commencé à filmer en manifestation, en fait. L'acte de filmer, il vient de... j'ai toujours été attirée par l'image, comme pas uniquement comme outil pour représenter nos luttes, également comme enjeu de riposte, parce que voilà, quand on a une sensibilité un peu critique par rapport au système d'oppression dans lequel on vit, on se rend compte que les images sont un front des combats qu'on a à mener. Et moi, ça m'intéressait par l'image de participer à fabriquer des représentations qui contestent en fait les représentations caricaturales généralement racistes, généralement sexistes, généralement homophobes, islamophobes. On peut dérouler malheureusement la liste des clichés et des oppressions, mais c'est pas non plus que il s'agissait pas non plus de faire que des images de riposte, mais essayer de créer aussi, déjà de se faire plaisir en faisant des films. Enfin, il y a quand même cette idée d'essayer de faire des films, des beaux films, des belles histoires et des beaux films, et de contribuer à une sorte de poésie et de la lutte.
C'est vrai que dans vos deux films, dans Moudjahidat et Derrière les fronts, vous suivez des processus de lutte, des processus de résistance. Et dans les deux aussi, c'est des luttes quand même portées par des femmes, principalement. Et par rapport à la question palestinienne, parce que du coup, votre premier film, c'était sur les luttes des femmes en Algérie. comment vous en êtes arrivé en fait à vous intéresser à la Palestine jusqu'à en faire ce film
Vous voulez dire de l'Algérie à la Palestine? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser au lien. Alors c'est évident, le lien il est évident entre l'Algérie et la Palestine. Enfin, je vais le décrire quand même. Déjà, moi en France, je suis entourée, mes amis, mes proches, les circuits militants dans lesquels je suis. Moi, j'ai beaucoup de proches franco-maghrébins, franco-arabes, avec qui je parlais de la Palestine. J'ai participé aux manifestations en 2009 contre les massacres à Gaza. On va dire que cette idée de conscience anticoloniale, décoloniale, anti-impérialiste, ça c'est quelque chose qui précédait mon travail sur Derrière les fronts. Maintenant, quand je suis tombée sur les textes de Samar Jaber, donc la psychiatre, écrivaine, psychothérapeute palestinienne, en fait, j'ai trouvé plusieurs forces dans ces textes. La première, c'est que d'un seul coup, en parlant des conséquences psychologiques, pour moi, ça ouvrait une nouvelle porte et une nouvelle manière de comprendre ce qui peut se passer là-bas. Et d'une manière, c'était une autre sorte d'écriture que les tracts, que des chroniques journalistiques qui sont tout aussi importantes pour comprendre ce qui se passe là-bas. Mais là, d'un seul coup, on avait le regard donc d'une psychiatre sur les conséquences de ce qu'on ne voit pas au quotidien, de ce qu'on ne voit pas. Les images que les gens ont en tête quand ils pensent Palestine, il peut y avoir ces démolitions de maisons, il peut y avoir ces conditions de vie invivables à Gaza. Il y a des choses palpables. Et là, d'un seul coup, en fait, dans ces textes, elle parlait de ce qui est invisible, de ce qui est difficile à capturer, de ce qui est intime. Et peut-être que le fait qu'à l'époque, bon, je le suis encore, mais à l'époque, j'étais déjà dans des réflexions, on va dire, féministes anti-impérialistes, je précise bien, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sortes de féminisme, ça, on pourrait en discuter des heures. Et voilà, il y avait cette idée de féminisme anti-impérialiste qui fait que le privé est politique. Et je pense que déjà de considérer le privé comme politique, ça ouvre des portes sur réfléchir à en quoi le psychologique, le moral, l'état d'esprit, l'âme, et comment un système cible aussi ça, c'est politique. Donc de l'Algérie à la Palestine, moi c'est principalement en découvrant les textes de Sama. Et en fait, au même moment, comme je travaillais sur Mujahidat, c'est là où j'ai découvert Fanon, Franz Fanon, qui était un psychiatre anticolonialiste antillais, qui a rejoint la lutte du FLN, qui a démissionné de son poste pour l'État français en Algérie, en expliquant qu'on ne peut pas continuer à soigner des gens dans un système colonial. Donc il y avait... au même moment je découvre Fanon et au même moment je découvre moi ce qui m'a semblé être une sorte d'héritière de collègue de son travail mais du coup contemporaine et en Palestine. Il faut dire aussi quand j'ai tourné en Algérie, dans les repas qui suivaient les tournages, les gens parlaient souvent de la Palestine, en fait. Enfin, on a eu beaucoup de conversations sur la Palestine. Enfin, vous le voyez aussi avec les images, là, tous les vendredis. Les Algériens, il y a des drapeaux palestiniens d'une dizaine de mètres dans les rues. Il y a quelque chose de très présent en termes de conscience anti-impérialiste. Alors, moi, c'est les mots que je mets. Les Algériens mettent plein de... Comment ? Anticolonial. Ouais, anticolonial. Mais même sur la question de l'ingérence, la question de l'ingérence de l'Occident dans les affaires, sur la question du panarabisme aussi, enfin voilà, l'Algérie et la Palestine, c'est deux pays avec une lutte aiguë contre les occupations. Ouais.
Parce que vous avez parlé aussi de féminisme par rapport anti-impérialiste. Vous avez vu qu'à Cannes, là, il y a des femmes qui ont signé un texte par rapport justement à la place des femmes dans le monde du cinéma. Est-ce que c'est ce féminisme institutionnel ou est-ce que c'est un féminisme qui vous parle ? En tout cas, la réaction, profiter de Cannes, c'est intéressant aussi peut-être, non ?
Je pense que les constats qu'elles font, c'est juste, hein ? Je pense qu'il y a plein de... Finalement, il y a plein de processus aussi invisibles qui expliquent pourquoi il n'y a pas de femmes, ou très peu de femmes, à des postes... au poste décisionnaire, ou comme productrice ou réalisatrice de films à gros budget. Parce que, en fait, la question qui se pose dans l'industrie du cinéma aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dans le documentaire, par exemple, sur des films avec des budgets modestes. Mais par exemple, quand on réfléchit à des films, des péplums ou des films d'action à gros budget, là on retrouve déjà beaucoup moins de femmes, comme si on n'était pas comme si on pouvait pas nous faire confiance, en fait, sur le fait d'être bankable dans cette logique de marché ou de mener des projets avec des gros budgets. Bon, ça c'est un des aspects. Je pense aussi, enfin voilà, il y a toute une industrie à révolutionner, et pas qu'un jour par an au 8 mars ou à Cannes pour faire une déclaration. C'est bien, c'est le genre de choses qui interpellent. Maintenant c'est maintenant, moi, je crois au fait de l'auto-organisation aussi. Je suis une des fondatrices de Hybrid Pulse, qui est une association dans laquelle j'ai produit et réalisé 4 films. Et en fait, à la base, on l'a créée avec Selma Sguidi, qui était une camarade à moi dans le Master 2 à Saint-Denis. Parce que déjà il y avait cet enjeu pragmatique de pouvoir avoir une structure pour faire des demandes de subventions, pour faire des demandes de financement, pour pouvoir s'équiper. Mais après, on va dire que il y a quelque chose de crucial pour les réalisatrices aujourd'hui, c'est aussi de sortir d'une forme d'isolement. Alors pas pour les réalisatrices, pour les réalisateurs c'est la même question. En fait, il y a une sorte d'isolement, et du coup de pouvoir trouver des formes de réunion, des formes d'espace où on se d'entraide, où on se renforce, où on se relie, où on fait partager, où on se partage nos réseaux, nos expériences. Ça c'est un enjeu fondamental pour se renforcer et peut-être pour poser des choses de manière collective sur la place des femmes. Mais ça peut être déployé. La place des réalisateurs, des personnes racisées, c'est la même chose. Voilà, il y a beaucoup à... Même sur les réalisateurs qui sont pas issus de familles du cinéma ou qui sont pas issus de classes... de classe haute, les enjeux se posent de la même manière.
Juste avant de rentrer un peu plus dans le film, est-ce que vous avez des questions déjà ?
Oui. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à votre écriture filmique, l'importance de la poésie,
ouais.
qui est en même temps poélytique, comme dirait André Menviel ou Lubat, mélangée. Est-ce que pour vous c'est une écriture qui a davantage de force que le documentaire, j'allais dire un peu plus à plat, juste le documentaire qui suit les événements, qui suit les personnes?
En fait, par exemple, le Mujahidat, dans mon premier documentaire, le dispositif est beaucoup plus simple. Déjà, c'était mon premier long métrage, donc en termes d'écriture, c'était peut-être moins sophistiqué que Derrière les fronts. Mais après, quand les gens parlent, et nous livre des choses très précieuses de moments forts de leur vie, intenses, parfois douloureux, il y a de fait aussi une certaine poésie déjà. Pour moi, il y a déjà une sorte de beauté et de poésie dans le fait de témoigner de choses qui sont souvent cachées, qui ont été écrasées, soit institutionnellement dans la prise en charge des mémoires des luttes, soit étouffées parce que par exemple sur l'indépendance de l'Algérie, moi je me souviens, il y a des Mujahidat qui disaient, mais moi le jour de l'indépendance, je l'ai passé à pleurer. Du coup, nous par exemple dans les images d'Épinal, on a cette foule en liesse de joie, d'explosion, de bonheur. Moi, quand elle m'a dit ça, c'est parce que pour elle, c'était le jour certainement d'un soulagement, mais aussi le jour où elle pensait à tous les martyrs qui sont tombés, tous ces compagnons de lutte qui ont été tués. Donc voilà, il y a déjà une... C'est certain qu'on arrive à mettre en place un cadre de confiance pour réussir à ce que les gens... Nous offre cette parole, il y a quelque chose déjà qui est pour moi de l'ordre de la poésie. Maintenant, mon but, c'est pas de... comme je vous disais, mon but, c'est de faire des beaux films. Parce que il y a aussi cette idée comme quoi un cinéma militant ou engagé, c'est forcément un cinéma... en tout cas qui va délaisser des questions formelles. Souvent c'est facile aussi d'utiliser ça pour pouvoir balayer d'un revers de manche des films en disant voilà, c'est pas assez sophistiqué pour que ce soit sélectionné dans notre festival. C'est trop militant, ou alors, sous-entendu, il n'y aurait pas une recherche esthétique. Souvent, c'est faux, parce qu'on se retrouve quand même à voir des films qui portent une idéologie dominante, qui ne sont pas forcément non plus très, très élaborés, mais c'est bizarrement, c'est un argument qui va pas remonter. Maintenant, juste pour témoigner aussi d'une petite chose, j'avais cette discussion avec un exploitant de cinéma qui faisait cette remarque. Et quelque part, moi par exemple, dans Derrière les fronts, on a fait 7 demandes de financement institutionnel. Les 7 ont été refusées. J'ai fait 3 demandes de résidence de montage, résidence d'écriture. Ça a été refusé. Donc ça, c'est des cadres, par exemple, qu'aurait pu me permettre, en rencontrant d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices, des gens de mon métier, c'est des cadres qui permettent de pousser la réflexion. C'est des cadres, quand on a des contenus idéologiques qui sont pas attendus, ou qui sont pas souhaités, c'est des opportunités qui peuvent être refusées. Donc il y a aussi cette idée que les formes d'exclusion et d'ostracisme qui peuvent se mettre en place quand des réals portent des sujets trop critique abîme nos trajectoires. Il n'empêche, on est plusieurs à réussir à les faire, nos films, et à bien les faire. Et j'ai pas peur de dire que voilà, c'est un cinéma de combat, ce que j'essaie de faire. Bien sûr, c'est un cinéma engagé, bien sûr, c'est un cinéma militant, bien sûr, c'est un cinéma où j'assume ma subjectivité. Et une subjectivité. Féministe, anti-impérialiste, anti-capitaliste, soutien aux gilets jaunes au passage, plein de choses. Et y a besoin de ça.
Oui, le journal télévisé, même sur les chaînes du service public, sont très subjectives aussi, la façon de délivrer l'information. Mais vous êtes bien servi aussi avec vos interlocutrices, puisqu'ils l'ont dans la parole, cette langue poétique, que ce soit en Algérie, que ce soit en Palestine, l'usage de la métaphore, la façon de parler de la réalité est déjà enrobée de cette teneur très, très poétique et allégorique.
C'est une question ou c'est...
Bon, si
c'est hein, je suis d'accord.
Une remarque. Ouais.
Je suis d'accord.
Oui, encore une réflexion.
Moi, c'était par rapport à la discussion sur films militants. Et moi, je pense que tous les films, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a une intention. Et donc, il faut. C'est Ken Loach qui dit ça, il faut assumer. Il faut quand même assumer ce qu'on fait. Ce que je trouve, c'est par rapport à la distribution, en fait, souvent. C'est que, un, vous dites, vous avez plus de difficultés à vous faire financer si vous annoncez le thème. Et surtout en France, je pense que le thème de la Palestine est très nettement censuré. Et aussi, après, la distribution. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des festivals pour faire connaître les documentaires ou les longs métrages, mais est-ce que vous pensez que vous arrivez à être distribué dans des grandes salles ou quels sont les obstacles? Voilà.
Alors sur la distribution, Mujahidat, j'étais trop jeune et je connaissais pas les circuits. Du coup, le film a eu une vie. Sa vie peut continuer, mais à l'époque, j'avais pas cherché de distributeur, j'avais pas fait les démarches pour qu'il ait un visa ou autre. Donc, il a eu une vie en festival, en certaines projections débat. Mais voilà, je connaissais pas le circuit professionnel. Sur Derrière les fronts. Alors, j'avais dans un premier temps trouvé une distributrice avec qui ça s'est très mal passé. Je n'ai pas envie d'expliquer là, mais... Donc, j'ai repris mon film. Et donc, au sein d'Hybrid Pulse, j'assure la distribution du film depuis mars 2018. Il est sorti en salle. Donc, le film a... J'ai un visa du film et le film est sorti en salle en novembre 2017. Donc on est quand même resté 14 semaines à l'affiche dans un cinéma à Paris. Moi, j'ai dû faire presque 140 projections débat en France. Donc pour un film sur la Palestine, mais qui surtout assume un parti pris anticolonialiste clair. Dans ce film, il ne s'agit pas de dire... oui, les Israéliens aussi souffrent, et de mettre une symétrie entre les colonisés et les colonisateurs. Par exemple, ça, c'est une des choses qui peut aider au financement. C'est pas... Donc en fait, voilà, moi, mon métier premier, c'est la réalisation. Ne trouvant pas de producteur, je suis devenue par la force des choses productrice du film. Je ne sais pas si tout le monde envisage bien ce que ça veut dire, les tâches d'un producteur sur un film. Peut-être ça vaut le coup d'expliquer un peu. Parce que c'est clé, en fait. Un producteur ou une productrice... Donc, il y a l'enjeu de chercher les financements. C'est quand même le gros de l'affaire. y compris aussi de vendre le film à des distributeurs nationaux et à l'international. Un producteur ou une productrice, c'est aussi la personne qui va faire en sorte d'organiser les tournages d'un point de vue juridique, pratique, pragmatique. Et normalement, voilà, c'est un interlocuteur ou une interlocutrice pour accoucher du film, pour prendre certaines décisions sur est-ce qu'on continue certains tournages, est-ce qu'on arrête. Voilà, normalement, il y a ce dialogue un peu fécond avec la personne qui réalise. J'espère pour mon prochain film trouver un producteur ou une productrice sur la même longueur d'onde avec qui travailler. Parce que ça, c'est aussi quelque chose... Et dans cette économie fragile du documentaire ou de la fiction, des nouveaux réalisateurs, on est plusieurs à se retrouver avec cette double casquette. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Cette situation. Et donc, comme je voulais pas que ce film reste au placard, voilà, ça fait... Ouais, ça fait quasiment presque 2 ans que je fais de la distribution en tant que telle. Donc le film est sorti en DVD, en VOD, en vidéo à la demande en ligne. Et là, on travaille sur la distribution internationale. On a pu faire une tournée récemment aux États-Unis, parce qu'il a été sélectionné dans un festival palestinien à Houston. Texas. Ouais.
Voilà qu'on s'attendrait bien.
Eh ben, il y a des gens bien partout. Un festival porté par la diaspora palestinienne là-bas. Donc on travaille sur une sortie aux États-Unis. Le film va sortir à la rentrée en Italie. On a trouvé un distributeur. Et puis j'ai une version arabe, une version espagnole, et voilà, mon but c'est de continuer à pousser sa distribution et à trouver d'autres festivals, d'autres structures de distribution pour qu'il continue sa vie.
Le film a été diffusé en Palestine ?
Ouais, ça a été même une des premières diffusions projection débat. Au festival Ciné Days. Donc c'est un festival palestinien dans plusieurs villes en Cisjordanie. On l'a diffusé en octobre 2017, donc juste avant la sortie en salle en France. Et on était super fiers parce qu'on a reçu le prix du meilleur documentaire là-bas par les Palestiniens. Donc y avait un côté coup de boost énorme, grosse légitimation, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'images qui sont fabriquées sur les Palestiniens. Après, c'est un autre défi de faire un film avec des Palestiniens et des Palestiniennes et faire en sorte que les gens s'y retrouvent, quoi.
Justement, se poser des questions sur les conditions de tournage, sur... je crois que tu n'avais pas eu toutes les autorisations pour tourner là-bas.
Petit regard en coin. Ouais. En fait, c'est pas qu'on les ait pas eues, c'est que je les ai pas demandées. De toute façon, j'allais pas faire... J'allais pas faire une demande d'autorisation au ministère de la culture israélien. Enfin, ça déjà c'était une aberration.
Il faut peut-être expliquer pourquoi le ministère israélien et pas les autorités palestiniennes pour avoir des droits de...
Non plus.
Pourquoi ça passe par les...
Alors, pour ceux qui... la Palestine est occupée. Toute la Palestine est occupée. Il n'y a pas d'État palestinien. Les Palestiniens et les Palestiniennes ne sont pas souverains Il n'y a pas d'aéroport, par exemple, pour aller en Palestine. Il faut que vous passiez forcément, indubitablement, par une frontière israélienne. Vous passez forcément par le contrôle de soldats israéliens. Déjà, je ne les aurais jamais eus et ça n'avait pas de sens de demander une autorisation à une juridiction que je ne reconnais pas. Alors du coup, cette clandestinité, évidemment, elle génère des complications. Déjà, je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui ont peut-être été en Palestine, donc qui savent ce que ça représente de stress et d'organisation pour y arriver. Parce que l'État israélien bannit des citoyens qui ont envie d'aller rencontrer qui ont envie d'aller en Cisjordanie, qui ont envie d'aller rencontrer le peuple palestinien, que ce soit pour ramener et faire du commerce d'huile d'olive ou juste rencontrer les gens. Il y a de plus en plus de militants, de citoyens, je vous dis, qui sont refoulés. Je pense aussi même à des... Il y a eu une juive américaine impliquée dans le BDS qui a été empêchée d'arriver à Jérusalem. À l'époque où on a tourné, il y avait... moi, je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait... une photojournaliste des Beaux-Arts qui a été empêchée de rentrer en Palestine pour pouvoir faire un reportage dans le cadre de ses études sur un camp de réfugiés. Donc là, enfin, vous voyez, là, je suis pas en train de parler de lutte armée, quoi. Enfin, je suis en train de parler d'une artiste qui essaye de faire son travail. Du coup, enfin voilà, dans ce qui, alors qu'ils se définissent comme la seule démocratie au Moyen-Orient, on peut se demander en termes de liberté d'expression ce que ça signifie.
Oui, nous avons un des amis du festival à sa création, Stéphane Valentin, qui a tourné plusieurs fois en Palestine, et c'était terrible les stratégies pour pouvoir sortir les cassettes qu'il avait enregistrées, en donner à un copain qui passait avec juste une cassette, envoyée en passant par l'Égypte, par des gymnastiques incroyables. Quand on n'a pas le nez dessus, on ne sait pas à combien et quelle intensité de tracas on est soumis, simple touriste même, hein, et plus d'une personne même sans filmer, l'ont subi ça.
Je peux pas forcément raconter publiquement les trucs et astuces, oui. Mais si des réalisateurs ou des réalisatrices veulent en discuter en off, on peut le faire.
Mais ça peut bien amorcer pour ouais. Stéphane.
Mais moi, je me souviens que un des stress, c'était, enfin. On a interviewé, je dis on parce que je fais encore une dédicace à l'équipe, à mon équipe. Il y avait Adi et Charlotte, donc Charlotte était ingé son et Adi était interprète, mais moi je faisais le cadre et les entretiens. En fait, on a interviewé Khodor Anan qui sortait de prison. Sortait de prison à l'issue d'une grève de la faim de près de 60 jours, un peu aussi longue, aussi endurante, aussi éprouvante et dangereuse que celle de Bobby Sand, par exemple, pour ceux qui...
Oui.
Le militant irlandais. Et voilà, c'est quelqu'un qui est harcelé par l'État israélien pour ses engagements contre l'occupation et par rapport aux conditions de vie des prisonniers. Donc c'est quelqu'un qui avait été détenu en détention administrative, donc capturés, on peut dire kidnappés, détenus, arrêtés. Donc, comme on le sait, la détention administrative, c'est sans motif, sans procès. Qui est une juridiction, on va dire, extrajudiciaire, enfin, comment on dit, une juridiction d'exception, enfin, qui s'applique aux Palestiniens. J'espère qu'il ne s'appliquera pas en France.
On n'est pas loin.
Voilà. Enfin, qui s'applique d'ailleurs pour certaines personnes en France, déjà. Et du coup, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très... comment dire, qui est dans le viseur de l'État, qui est dans le viseur israélien et aussi celui de l'autorité palestinienne. Du coup, de l'avoir filmé lui, je me souviens que c'était, voilà, c'était des rushs, on savait qu'il était très sensible. Palestine. J'espère. J'y suis retournée depuis la sortie du film. Ouais. C'est très bizarre parce que parfois j'ai eu un interrogatoire assez long où ils m'ont relâché. 5 minutes avant le vol, enfin, j'ai cru qu'ils n'allaient pas me laisser y aller. Avec, je pense, un calcul. Parce que c'est ça qui est terrible, en fait. Même quand ils te laissent passer, tu te demandes pourquoi ils te laissent passer. Quel est leur intérêt? Enfin, même quand il n'y a pas de harcèlement ou d'interrogatoire, c'est certains qui diffusent, ils diffusent de la peur. Ils diffusent de la peur, ils diffusent quelque chose d'empoisonné pour dégoûter les gens d'y aller, en fait. Ils veulent dégoûter les gens d'aller en Palestine, ils veulent sur des choses invisibles à petite échelle ou sur des bannissements explicites, ils veulent casser les liens de l'international avec les Palestiniens et les Palestiniens. Du coup, quand ils m'ont interrogé pendant très longtemps et qu'ils m'ont finalement laissé passer, c'était juste avant d'aller justement pour le festival palestinien, c'était juste avant la sortie du film, c'était en octobre 2017. Et moi, je pense que s'ils m'ont laissé passer à ce moment-là, finalement, c'est qu'ils ont compris que... bon, déjà, ça y est, le film, il est là. Il était fait, en fait. Et que s'ils m'empêchaient de passer à ce moment-là, juste avant la sortie, ils faisaient de moi, entre guillemets, une cinéaste censurée. Ça allait peut-être être plus dommageable que finalement de me laisser passer. Enfin bon, voilà. On en vient à mettre de l'énergie pour essayer de réfléchir à quelle est leur logique.
Moi j'avais une remarque qui j'espère aboutira à une question, mais c'est pour en venir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur la question des films militants qui sont toujours soupçonnés de ne pas avoir de réflexion suffisamment profonde sur la forme. Et voilà, résistance aussi c'est une question qu'on se pose en permanence en fait, puisque nous c'est notre double enjeu, c'est-à-dire à la fois d'être un festival de cinéma qui propose des films avec une forme travailler, bon, voilà, et aussi un festival thématique qui du coup doit pouvoir creuser, avoir une ligne éditoriale assez forte. Et moi je trouve qu'en fait cette question qu'on se pose en permanence est une fausse question, et en fait en t'entendant parler, je me le dis encore plus, parce que là tu nous parles de réflexion pragmatique par rapport à voilà, comment tu fais pour aboutir à ce film, enfin, voilà, tu as une intention, tu veux la faire passer, et comment tu mets en place toute une stratégie pragmatique pour pouvoir la faire passer. Et moi, je trouve que c'est aussi l'expression de ta compétence artistique aussi. Parce que voilà, il y a une intention de départ, et en tout cas dans le film, moi, derrière les fronts, je trouve que voilà, il y a une énorme réflexion sur la manière projeter cette intention que tu as. Et là, j'en viens à ma question, du coup, c'est, je trouve que c'est particulièrement saisissant sur la question du montage. Enfin voilà, sans vouloir déflorer le film, y a une des images qui n'est pas la tienne et qui est une image de violence. Il y a des images de violence voilà, qui circulent en permanence et tout ça, mais moi je trouve qu'il y a une énorme réflexion sur comment tu amènes les spectateurs à cette image et comment voilà. Et du coup là je voulais te poser la question du montage, comment tu as travaillé au montage, comment ça s'est passé, parce que le montage c'est une deuxième phase d'écriture. Et voilà, une question là-dessus.
En fait, vous m'entendez ?
Ouais.
Tu soulèves une question très importante pour moi dans ce film, et même d'une manière générale pour moi pour faire des films et quand je regarde des films, qui est celle de la pudeur. La pudeur est la boussole de la dignité à restituer quand on filme, quand on représente les souffrances des gens. Précisément sur les Palestiniens, les Palestiniennes, je pense d'une manière générale les colonisés, il y a une forme... souvent d'indécence et d'indignité à représenter les morts, les blessés, les souffrances. Et en fait, il se trouve aussi que cette forme de... Moi, là, je vous dis ce que moi j'en pense. Ça peut ne pas être partagé. Voilà ma réflexion là-dessus. Cette forme de manque de respect et d'impudeur pour représenter les morts, les corps, les nudités, les blessures des non-blancs. Et là, des Palestiniens et des Palestiniennes, ça participe pour moi précisément de d'une forme de déshumanisation et de désensibilisation. Finalement, les gens s'habituent à cette détresse, à cette tragédie, parce que le lien empathique il est coupé. Et il est coupé précisément parce que dans ses manières de représenter l'autre. Du coup, il y a une haute responsabilité quand on se retrouve à faire un film qui s'inscrit dans cette histoire-là. Comment on fait ? Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui sont difficiles dans le film. On représente des choses qui sont violentes. Mais je suis aussi contente que, et du coup ça s'est sorti de la bouche de Palestiniens et de Palestiniennes à l'issue des projections, où plusieurs me disaient, moi je regarde quasiment plus de films politiques, ou sur nous, parce que déjà c'est bon, la situation je la connais, je la vis, et en plus généralement c'est des films dont on sort abattu. Et en fait, plusieurs personnes avec des profils différents entre guillemets m'ont dit on sort de ce film avec une sorte de force en fait, de sous-mood. Vous verrez ce soir à quoi ils font allusion. Et voilà, c'est un film de combat, c'est un film de résistance au sens c'est un film, vous allez voir les gens qui sont dans le film, bien sûr c'est difficile, mais il y a une forme de... Ils sont debout. Ils sont pleinement debout. Alors, l'autre pendant, pour moi, l'autre travers dans lequel il s'agissait de ne pas tomber, en termes de clichés, c'était aussi une sorte de héroïsation de l'ensemble du peuple, qui elle aussi ne fait pas du bien à la cause palestinienne. Parce que je pense que ça, c'est comme si c'était des surhommes ou des surfemmes. C'est pas le cas, en fait. C'est des êtres humains, mais qui là sont face à un système et voilà, le film essaye de restituer quelles sont toutes les ressources et toute la culture qui les aide à ne pas plier. Maintenant, il y a aussi des Palestiniens et des Palestiniennes qui sont pas forcément dans la résistance, qui peuvent être des collabos, qui peuvent être fatigués aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est... Il faut faire attention aussi à cette héroïsation. On pourra y revenir.
Oui, je ne vais pas revenir nécessairement à Stéphane Vallatel, le cinéaste que j'évoquais tout à l'heure, et qui a fait, entre autres, un film en Palestine, Terre de Soumoud. Tu peux préciser ce que ça veut dire, l'état d'esprit Soumoud en Palestine aujourd'hui?
Du coup, moi, c'est dans les écrits de Sama que j'ai découvert cette notion. En fait, on la retrouve dans le Coran. On la retrouve aussi dans la littérature dans le monde arabe, de manière générale. On la retrouve dès le 19e siècle dans la littérature de résistance de plusieurs groupes politiques, de plusieurs tendances politiques en Palestine. Par exemple, c'est une notion qui existait aussi dans les luttes contre le mandat britannique. En fait, Soumoud, c'est une forme de résilience, mais qui implique aussi, pas qu'une résilience individuelle, mais une forme de résilience collective, et qui implique pas uniquement le fait de faire face à un choc, mais aussi qu'implique une disposition à faire face à l'oppression. Je vous laisse voir dans le film la définition que Sama en donne, ça sera plus précis. Mais, non, parce que, en fait, c'est peut-être une des premières fois où j'ai l'occasion aussi d'élaborer sur la question que tu posais tout à l'heure sur les femmes dans le cinéma. Je suis peut-être pas encore prête à vraiment bien bien synthétiser ce que je pense de ça. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que sur la légitimité, encore une fois, il y a un travail sur l'auto-légitimité à faire. Parce que les femmes, comme les opprimés en général, il y a une sape de sa confiance en tant que créateur. Il y a une sape de sa confiance à faire un film historique, politique, sur des sujets lourds.
Entrer dans les normes aussi masculines.
Oui. Oui. Après, comme le cinéma, c'est aussi une industrie et qu'il y a des enjeux d'argent et qu'il y a des enjeux de... Voilà, de business, de se vendre. À un moment, on vend un projet. Et que c'est quand même... voilà, il y a quand même cette idée où les décideurs, les producteurs... Il y a beaucoup de producteurs hommes hétérosexuels blancs. Et du coup, il y a dans les interactions moi je vous dis, pour en parler à demi-mot avec d'autres copines réales, l'enjeu du rapport hétéronormé, il se pose quand on rencontre des décideurs, comment est-ce que ça va être, comment dire, est-ce que ça va être problématique? Dans quelle mesure, en tant que femme, on n'est pas obligé, enfin, dans quelle mesure il n'y a pas une pression à ce qu'on soit obligé de séduire? Moi, c'est pas mon délire. C'est, enfin, comment dire, je... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus, de démarches, de structures de production de femmes. Il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Je dis pas que parce que c'est que des femmes, c'est génial, pas du tout. Mais voilà, on a besoin de développer nos propres... En tout cas, ça évacue ce problème-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais...
Bon, moi, je voudrais juste apporter un témoignage sur les amis palestiniens que nous avons là-bas. Je fais partie d'une association, Pousser en Palestine, dont le stand est là. Et ça fait bientôt 20 ans que nous agissons... aux côtés, que nous accompagnons des Palestiniens, soit en Cisjordanie, soit en Israël, soit à Gaza. Bon, je suis allée à plusieurs reprises en Palestine, et tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter, sur les passages, etc., les difficultés. Mais ce dont je voudrais parler, simplement, c'est par rapport à mes amis là-bas, que nous connaissons donc depuis 20 ans, que nous suivons, que je vois régulièrement, enfin une fois tous les 2 ou 3 ans, et cette façon qu'ils ont de continuer à vivre, ce ne sont pas des héros, ils éclateraient de rire si on leur disait ça, ce sont des gens qui travaillent, voilà, qui ont les difficultés, pour certains plus que d'autres, mais qui... Enfin, je ne voudrais pas dire que j'admire, mais enfin c'est ça, qui sont capables, dans souvent des situations très difficiles, de continuer à vivre, à avancer. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Parce que quand on s'imagine dans leur situation, en ayant des enfants à élever, etc., moi, personnellement, je me dis, mais moi, je n'y arriverai pas. Je craquerai, quoi, je partirai. J'irai vivre ailleurs, je m'en irai. Bon, il y a des Palestiniens qui partent, hein. Il y a des Palestiniens, la diaspora palestinienne, bon. Mais il y en a beaucoup qui restent, c'est la majorité qui sont là, quand même. Et qui font, qui vivent, et qui vivent la situation avec une simplicité que je trouve extraordinaire. Voilà.
Alors, on sait que déjà, le fait de pouvoir partir, c'est vraiment c'est pas un choix que beaucoup ont, en fait. C'est vraiment une ultra, 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 ultra minorité de Palestiniens qui peuvent envisager de partir, enfin, qui ont cette possibilité. La deuxième chose, c'est que ils sont plusieurs à nous dire le simple fait de continuer de vivre là-bas, c'est leur résistance en fait. De ne pas abandonner leur existence là-bas. Je dis pas ça pour juger des Palestiniens qui feraient le choix de partir. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas placé pour faire ça. Hein. Mais voilà, le simple fait d'ouvrir un commerce, de construire une maison, d'emmener son enfant à l'école et de traverser un checkpoint tous les matins, et cette violence et humiliation... Voilà, c'est l'existence même là-bas, effectivement, relève de cette résistance. Sama, en tant que psychiatre, psychothérapeute, du coup, dans le film, elle parle de qu'est-ce qui peut nourrir ce soumoud, qu'est-ce qui peut nourrir et qu'est-ce qui peut être appelé à être renforcé en termes de structuration collective de la société, qu'est-ce qui peut aider à renforcer cette capacité de faire face. Elle parle de, par exemple, l'éducation, c'est quelque chose de... Elle dit, nous, on n'a pas de pétrole, mais on exporte des gens instruits. L'éducation est très importante en Palestine. La question de la famille, la cohésion de la famille, les solidarités familiales, c'est d'ailleurs quelque chose qui est ciblé par l'occupation, c'est pas étonnant. Voilà, il y a la question de la foi aussi, c'est quelque chose qui structure et qui fait sens pour beaucoup. Voilà, c'est
du coup, ouais, voilà, on arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour ceux qui avaient signé. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Alexandra. Et puis merci. On encourage les gens à venir voir ton film ce soir à 21h. Et juste à noter aussi que le DVD de tes deux films sont en vente sur le stand de Rambal Film. Et que le livre de Sapa Jabre est également en vente là-bas. Mmh. Et disponible sur le stand des Salras aussi, apparemment. Voilà. Du coup, ben, on va vous laisser quelques minutes, le temps de se mettre en place pour la conférence pas pressée qui va accueillir beaucoup.